Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par les données de santé. Nos données de santé sont au cœur d'un immense mouvement de transformation. Elles nourrissent la recherche médicale, elles alimentent les algorithmes, elles modélisent nos trajectoires de soins. Les données de santé sont désormais de plus en plus enregistrées, transmises, analysées et traitées au format numérique. Elles sont constituées de tous les éléments descriptifs en rapport avec notre santé, des comptes rendus d'analyses biologiques ou d'imagerie, aux dossiers médicaux complets. Les études, telles que E3N ou Constance, qui regroupent des cohortes de centaines de milliers de volontaires en France, permettent des études longitudinales pour mieux évaluer les facteurs de risque et les déterminants de santé. La centralisation numérique des données individuelles, proposée par l'outil du gouvernement français Mon Espace Santé depuis 2022, vise la simplification, la coordination des soins et l'empowerment du patient, mais il constitue aussi une formidable ressource pour la recherche permettant des collectes de données de grande ampleur. Et pourtant, lorsqu'on cherche à se renseigner sur Mon Espace Santé en ligne, la première question qui apparaît dans Google, c'est « Pourquoi faut-il refuser Mon Espace Santé ?» Alors, y a-t-il un risque à accepter de partager ces données de santé ? Les pratiques de récolte de données de santé ont-elles toujours des objectifs louables ? Jusqu'où ces données peuvent-elles permettre d'améliorer les soins ? Ces questions se situent entre l'importance majeure de la protection des données personnelles et le très fort intérêt pour la communauté scientifique et l'innovation dont nous serons tous bénéficiaires demain. Pour y réfléchir, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Dubruel, qui est juriste en droit de la santé et recherche médicale, doctorante à l'Institut Maurice Auriou, membre de l'équipe bioéthique SERPOP-INSERM, et Fabrice Ferré, médecin anesthésiste réanimateur, praticien hospitalier au sein du CHU de Toulouse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Noémie, en tant que juriste, je vous adresse ma première question. Vous vous intéressez particulièrement à la protection des personnes concernant le recueil et la diffusion des données. On parle souvent des RGPD, c'est ça un petit peu. Est-ce que la collecte des données de santé risque de remettre en question les principes de cette protection ? Autrement dit, est-ce que le recueil de données de santé, c'est quelque chose de suffisamment réglementé, ou bien toute personne qui, par exemple, utiliserait Mon Espace Santé, prend le risque de voir ses données personnelles utilisées sans son consentement ?
Alors la collecte des données de santé, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, enfin, même depuis toujours quand on fait de la relation de soins ou de la recherche. Donc c'est pas quelque chose qui aujourd'hui vient remettre en cause des principes qui pourraient être posés auparavant, c'est plutôt l'inverse. Donc on avait de la collecte et du traitement de données de santé. Et ensuite, on a réfléchi à poser des cadres juridiques et éthiques pour justement venir mieux préserver la protection des personnes, une protection qui a commencé à être pensée au fur et à mesure de la considération qu'on avait pour les données. Donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la donnée de santé, c'était quelque chose d'important, qu'il fallait la protéger et que ça pouvait engendrer des risques de les traiter, des risques pour les personnes. Donc on s'est retrouvé à avoir un cadre qui s'est posé. Ce cadre, vous avez parlé du RGPD, c'est le règlement européen qui est venu un peu bouleverser l'écosystème juridique en Europe et donc forcément en France, puisque ce règlement est venu s'appliquer automatiquement en France. Mais en France, on était quand même pionniers en la matière. On avait une loi, la loi informatique et liberté, depuis 1978, qui avait déjà pensé ces enjeux-là et qui était déjà fondatrice d'un certain cadre important qui reste applicable et qui reste prioritaire. Donc on avait cette loi qui a donc été adaptée aux exigences du RGPD. Et dans le RGPD, la nouveauté, c'est une définition qui est arrivée de la donnée de santé. Donc avant ça, on n'avait pas forcément de définition précise. On parlait de données de manière générale, on parlait même d'informations de manière beaucoup plus générale.
D'accord.
Et le RGPD est venu apporter cette définition de la donnée de santé en la caractérisant comme une donnée qui est particulièrement sensible parce que liée à quelque chose d'encore plus particulier pour l'individu, un domaine considéré comme assez sensible. Et donc, on a un principe qui découle de ce règlement, qui est un principe d'interdiction de collecte et de traitement des données de santé. Évidemment, si on s'arrête là, on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire, donc ça ne marchait pas du tout. Donc, l'idée du RGPD, ça a été de poser ce principe d'interdiction par la protection et ensuite de venir dire qu'il y a évidemment des exceptions, notamment la prise en charge des personnes, bien sûr, la recherche, donc l'intérêt légitime, le consentement aussi, parce que si toute personne consent directement au traitement des données de santé, on peut les traiter. Sous un cadre bien plus précis de protection, en affirmant des droits pour les personnes, notamment le droit à l'information, j'ai parlé du consentement, le droit à l'opposition aussi à ce traitement, et en définissant des finalités précises du traitement des données de santé, on a finalement tout ce cadre qui vient se poser. Donc finalement, le traitement des données de santé aujourd'hui, il est quand même bien encadré, et l'accélération de la collecte des données avec le déploiement du numérique et la création de ces espaces comme Mon Espace Santé ne vient pas remettre en cause ces cadres puisqu'ils sont construits en écho avec ça. Donc c'est pas du tout contradictoire. Et juste pour préciser, Mon Espace Santé, c'est quelque chose qui va venir s'intégrer dans une autre motivation de l'Union européenne qui vient d'adopter un règlement pour créer l'espace européen des données de santé. Donc un espace très large qui permettrait d'harmoniser le traitement des données de santé de tous les citoyens européens. Et donc Mon Espace Santé qui est national va venir s'intégrer dans cet écosystème européen, donc une gouvernance européenne qui devrait être plus protectrice encore pour les personnes.
Plus protectrice, donc ce que je comprends, c'est que mes données, celles que je peux partager avec mon médecin, par exemple, sur cet espace, ou que mon médecin, parce que c'est souvent l'inverse pour l'instant, dépose sur cet espace, ne peuvent pas être traitées ou collectées sans mon consentement.
Pour ces espaces-là, on n'est pas sûr du consentement parce que c'est la finalité de l'intérêt légitime de traiter ces données qui priment. Donc on est sur un principe d'information et de non-opposition.
D'accord.
D'où la fameuse information que vous avez dit en introduction sur le fait de pourquoi quand on va sur Mon Espace Santé, on a cette fameuse phrase « Pourquoi dois-je refuser ?» Parce qu'en fait, on est vraiment obligé d'aller vers les personnes pour leur transmettre un maximum d'informations et c'est à la personne d'être proactive et de s'opposer au traitement de ces données.
Donc à aller sur son espace santé et dire « Je refuse ».
Voilà, c'est ça.
Donc si je comprends bien dans votre réponse, on a d'abord commencé par collecter les données et ensuite on s'est dit qu'il fallait un cadre réglementaire. En fait, la pratique est beaucoup plus ancienne que le règlement lui-même, c'est ça?
Oui.
Fabrice, est-ce que vous, en tant que médecin, vous pourriez nous expliquer comment ces données de santé peuvent être utilisées? Parce que finalement, là, on parle du versant juridique, du partage, de la récolte des données. Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Merci beaucoup, Noémie, parce qu'à chaque fois que tu interviens, ça m'éclaire. Mais effectivement, ça fait très longtemps qu'on collecte des données. Et il y a à peu près un millier d'années, Avicenna, qui était un médecin et scientifique perse, suggérait déjà de tester des nouveaux traitements sur un groupe de patients tout en gardant un groupe contrôle. Et c'était finalement les premiers tests cliniques. Mmh. Et ça nécessitait intrinsèquement la collection des données de santé.
Et oui.
C'est vrai que les choses évoluent terriblement. Et notamment, maintenant, nous disposons d'une masse incommensurable de données. Et finalement, ce que ces données massives... ces données de santé massives permettent, c'est d'aller au-delà de l'expérience, de la mémoire d'un médecin en particulier et finalement de comparer des nouvelles observations, des nouvelles situations à l'immensité de la mémoire collective. Mmh. Et enfin, d'essayer grâce à ça d'essayer de deviner l'évolution probable d'un patient. Et en fait, c'est simplement de la médecine guidée par les données. On parle de data-driven medicine, donc voilà, vraiment guidée sur ces données. Et en fait, on est dans une situation très particulière qui est un alignement des planètes avec une médecine qu'on veut de plus en plus focaliser sur ce qu'on appelle les 5 P, c'est-à-dire préventive, prédictive, personnalisée, fondée sur des preuves et participative. Mmh. Mais donc cet alignement des planètes entre une médecine des 5 P, l'accessibilité à des données massives, parce qu'on est capable d'avoir accès à des données de biologie, aux données des dossiers médicaux, des dossiers patients informatisés, mais également le développement récent des capacités de modélisation et de simulation avec l'utilisation de l'apprentissage machine et des algorithmes d'intelligence artificielle. Mmh. Et en fait, c'est probablement pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on est dans cet alignement des planètes qui nous permet de traiter une quantité massive de données sensibles de santé qui permet de personnaliser la médecine et d'essayer de deviner les trajectoires d'un patient lors de son parcours de soins.
Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord dépasser l'expérience personnelle du médecin, c'est-à-dire réunir un grand nombre de données. J'ai l'impression que ça a une visée de collecte aussi, de d'étendre une expérience beaucoup plus largement que ce qu'un un praticien va connaître dans sa carrière, par exemple.
Absolument. D'étendre une expérience, d'étendre une expertise, d'être en capacité de fournir un diagnostic plus précis, plus fiable, d'être prédictif. Et au bénéfice des patients.
Et voilà, d'un autre côté, il y a cet aspect de adapter toutes ces connaissances très massives à une situation singulière, quoi. Donc, on part d'un moment singulier où un médecin, dans une rencontre avec un patient, va programmer, par exemple, un examen en particulier. Ces données vont être à grande échelle récupérées pour en faire des synthèses, pour en tirer des connaissances. Et ensuite, ça va à nouveau revenir à l'espace singulier, la rencontre avec le patient.
Effectivement, à l'échelle de l'individu. Et c'est bien là l'enjeu, parce que jusqu'à présent, en fait, on avait cette grande difficulté qui était la variabilité interindividuelle, la variabilité entre les individus. Et lorsqu'on réalisait des études, on va dire, cliniques, des tests cliniques assez classiques, on essayait à partir d'une population, d'un échantillon de population, de tirer des conclusions et ensuite de les appliquer à l'échelle d'un individu. Mais on le verra peut-être avec notamment les jumeaux numériques, on peut maintenant véritablement identifier la trajectoire d'un patient, la trajectoire d'un individu, celle qui lui correspond le mieux pour personnaliser son traitement et améliorer son pronostic notamment.
D'accord. Donc c'est très axé sur la personnalisation aussi, c'est ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit l'inquiétude des personnes qui se demandent ce qu'on va faire de leurs données. C'est très peu présent finalement dans l'esprit collectif de dire que ces données ne sont pas captées à des fins qui ne leur serviront pas, quoi.
Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a d'abord, lorsqu'on collecte massivement des données de santé, il y a d'abord une dépersonnalisation, d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est ensuite probablement, et il faut en faire la preuve également, mais c'est probablement pour ensuite se recentrer sur un individu en particulier et lui proposer la meilleure prise en charge.
Et alors, les données de santé, elles sont parfois générées par les patients eux-mêmes, parce que là, on parle des examens médicaux, des imageries, etc., mais il y a aussi des données saisies dans les applications de santé, les suivis de cycle, de régime, de sommeil, issues des montres connectées, des personnes connectées, des glucomètres connectés, des machines à dextro. Tous les trackers d'activité physique génèrent des données quotidiennes et finalement, nous sommes sans cesse en train de transmettre des données concernant notre santé, mais sans forcément y penser. À qui appartiennent toutes ces données et est-ce qu'elles aussi, elles peuvent faire l'objet d'un recueil pour la recherche? Parce que là, c'est un autre cadre qui n'est pas du tout, qui ne semble pas du tout organisé, en tout cas, vu de l'extérieur.
Peut-être Noémie donnera un élément de réponse, ou la réponse qu'il faut. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'on est probablement face à un nouveau mode d'exercice professionnel, en tout cas pour nous, professionnels de santé. Mmh. C'est-à-dire qu'on a maintenant la capacité de recueillir des données à très haute fréquence. On prend par exemple ces notions de montres connectées qui sont capables de donner une fréquence cardiaque et même une variabilité de la fréquence cardiaque chez des patients qui sont finalement dans leur environnement habituel et qui donc sont écologiquement intégrés dans leur milieu. Mmh. Et donc, jusqu'à présent, on n'était pas non seulement capable de recueillir ça, mais du coup, nous ne savions pas comment analyser ce genre de données. Mmh. Maintenant qu'elles existent, c'est probablement la source de futures découvertes en médecine. Plutôt qu'un patient qui vient ponctuellement tous les 6 mois à la consultation de son médecin généraliste, à qui on prend la tension artérielle ou la fréquence cardiaque, qui serait probablement biaisé par le contexte, on est capable de recueillir ces données-là chez des patients qui sont écologiquement intégrés dans leur environnement. Mmh. Et donc, c'est probablement une porte qui s'ouvre vers une nouvelle médecine, une médecine qui pourrait presque être continue dans la mesure où ces données sont, on peut les collecter à très haute fréquence et encore une fois chez les patients qui sont par exemple à leur domicile ou qui sont en train de se balader à l'extérieur.
Ça permet en quelque sorte de dépasser l'effet blouse blanche d'une tension qui augmente.
Absolument.
Okay.
Dépasser l'effet blouse blanche et avoir comme tu le disais Fabrice, ce contexte aussi de données qui va être bien représentatif de la personne dans son environnement donné et dans son mode de vie. Et non seulement avant on ne savait pas comment les collecter et les considérer, mais il y avait aussi cette notion de données qui sortaient du contexte clinique, et notamment pour la recherche qui avait pas de, et qui a d'ailleurs pas tout à fait encore de valeur vraiment, qui n'est pas produite dans un cadre vraiment méthodologique tel qu'il est entendu dans le domaine de la recherche notamment, donc qui n'a pas encore beaucoup de valeur, mais qui est en train d'être considérée. On parle notamment des données de vie réelle qui sont en train d'être considérées par l'Agence européenne du médicament.
D'accord.
Pour être utilisées en recherche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de mes recherches, je suis retombée sur un document de la CNIL, donc la Commission nationale de la liberté de l'informatique en France, et qui avait déjà publié en 2014 un rapport sur justement le corps hyper connecté des personnes par l'utilisation d'outils connectés.
Ouais.
Et elle considérait justement que c'était une nouvelle façon de produire de la donnée qui était vraiment massive et qui dépassait un peu l'individu lui-même, alors qu'il est lui-même acteur de la production de ces données. Donc c'était assez intéressant de voir que la CNIL pensait déjà à ces sujets-là en 2014. Et pour répondre à la question de la propriété des données,
oui.
Alors ça, c'est une question très importante pour nous, les juristes. Notamment, je travaille beaucoup avec des médecins dans le cadre de la recherche, et c'est assez difficile d'avoir ces discussions-là parce que notamment ces médecins qui font de la recherche, qui travaillent sur ces données, considèrent que ce sont leurs données, alors que ce n'est pas vrai. Et on entend beaucoup cette notion de propriétarisation des données, notamment des données de santé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée, c'est vraiment quelque chose qui est rattaché au privé de la personne. Donc c'est considéré comme un attribut du personnel, vraiment.
D'accord.
Mais pour autant, on n'a pas de propriété sur nos propres données. On n'est pas, personne n'est propriétaire des données, pour être clair.
Ah, d'accord.
Mais il y a vraiment cette logique de ça fait quand même partie de ma vie privée, d'une information que je veux formuler, rendre publique ou pas.
Ouais.
Et donc on a cette logique de protection de la vie privée qui s'applique et de respect de la dignité humaine en fait derrière tout ça.
Oui, c'est ça.
Et donc on ne peut pas vendre, en France du moins et en Europe, ces données, contrairement à d'autres pays.
Ah, d'accord.
Donc on ne peut pas s'approprier des données. Par contre, ce qui est un peu ambigu, c'est que le travail qui est réalisé sur des bases de données, le fait de les agréger, de les travailler, de les nettoyer, etc., ce que font des médecins, des chercheurs, ça peut avoir une valeur monétaire. Donc quand on fait de la recherche, par exemple, on va faire des contrats de partage de données qui peuvent avoir une valeur financière, mais en fait, c'est la base donnée en soi. C'est pas la donnée qu'on partage et qu'on vend, c'est le travail qui a été réalisé sur ces données et le fait de pouvoir les exploiter.
C'est une sorte de propriété intellectuelle ?
Voilà, c'est ça. C'est le code de la propriété intellectuelle qui s'applique là-dessus.
J'ai une question pour toi, Noémie. Moi, si je dis que les données appartiennent finalement aux patients et qu'ils les mettent à disposition en l'absence d'opposition, est-ce que j'ai raison de leur dire ça lorsqu'ils me posent la question, ces patients ou pas ?
Oui, tu peux très bien le formuler comme ça. Juridiquement parlant, il n'y a pas de propriété, mais clairement, ça fait partie d'eux. Donc, je pense que tu peux très bien le formuler comme ça. Sans problème. Et voilà, après, c'est des droits d'opposition ou de consentement sur qu'est-ce que je veux divulguer de ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas divulguer, qu'est-ce que je veux partager.
Après, comme toutes les études, il y a une possibilité d'irréversibilité. C'est-à-dire, une fois que j'ai accepté, comme les données sont anonymisées, je ne peux pas les retirer, puisqu'elles sont prises dans un flot de données.
Absolument. Et là, tout ce qu'on dit depuis le début, on parle de données à caractère personnel.
Oui.
Donc, ils sont toujours rattachés à un individu. Quand on pseudonymise des données, on est encore dans de la donnée à caractère personnel. Par contre, quand on anonymise, vraiment des données, et là, on a vraiment des critères qui sont assez clairs pour faire ça. C'est vraiment pas facile, surtout dans le domaine de la santé. Là, on se détache totalement de ces enjeux-là et la donnée devient un objet commercial sans aucun problème. Enfin, on n'a plus du tout le lien avec la personne.
Oui,
Parce qu'on s'est assuré qu'on était incapable de réidentifier les patients à partir de leurs données anonymisées. C'est ça l'important.
Merci beaucoup, Noémie Dubruel et Fabrice Ferré.
Avec plaisir, merci.
Merci.
Nous nous retrouverons dans une deuxième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.